les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En 2007, Chantal Ackerman faisait de la radio avec un atelier de création radiophonique pour lequel elle signait un autoradioportrait. La voix de Chantal Ackerman, des mots, des textes, pour dire son travail, ses films, sa vie. Notes, journal intime, introspection dans laquelle tout se relie, tout est vécu ensemble, tout est dit dans le même mouvement. Chantal Ackerman, écrivain, sans aucun doute, mais qui a choisi le cinéma. L'adolescence, la ritournelle de Sotmaville, son premier film, qui revient sans cesse. New York, Bruxelles, Paris, la voix de Delphine Seyrig, la voix de Jeanne Dillman. Un violoncelle, la voix de sa mère et, toujours là, cette histoire qui ne passe pas. Une œuvre, une vie, en 75 minutes, Chantal Ackerman, par elle-même, à la radio.
La création.
Tempo. Atelier de création radiophonique. Auto-radio-portrait par Chantal Ackerman.
Lundi, j'ai une réponse. J'ai une réponse. Qui a une question? Une réponse à quoi? Les questions, je les entends. J'y ai souvent déjà répondu. Parfois bien, parfois mal, mais toujours en ressassant. Je suis une ressasseuse, je le sais bien. Et parfois, à force de ressasser, je m'ennuie moi-même. Ma vie est longue, un long ressassement. Oui, il faut ressasser, parce que c'est ce ressassement, c'est de ce ressassement qu'est sans doute né tout ça. C'est tout pour aujourd'hui. Sauf que je relis ce que je dis au début du film, Chantal Ackerman par Chantal Ackerman, et que je me demande comment écrire autre chose. Tout ou presque y était déjà. Je relis aussi d'autres choses, des interviews données en français, en anglais, et je vois se dessiner une fois de plus quelqu'un qui ressasse. Quelqu'un qui ressasse, mais je n'aime pas ce qu'elle ressasse. J'ai envie, dans un ressassement toujours, de dire le contraire, mais pas toujours. Je me demande si un jour, il y aura encore quelque chose à ressasser. Mardi. Ce matin, faut y aller, mais où? En moi, autour de moi, repenser à mon travail. D'où ça sort tout ça? Pourquoi? Comment? En ce moment, je préférerais l'ignorer. Tout, moi d'abord, et le travail ensuite, ou en même temps sans doute. Pourquoi? Parce que... Ça va passer, on me dit, ne t'inquiète pas. On me dit, ce serait bien pour le lecteur, le spectateur, qu'il comprenne à demi-mot et à mi-voix pourquoi tu commences par une tragicomédie où tu joues toi-même. Puis pourquoi tu t'en détournes, apparemment pour aller vers des films expérimentaux et muets. Pourquoi ceux-là, à peine achevés, de l'autre côté de l'océan, tu reviens par ici, et à la narration. Pourquoi tu ne joues plus et que tu fais une comédie musicale? Pourquoi tu fais des documentaires et puis que tu adaptes Proust? Pourquoi tu écris aussi une pièce, un récit? Pourquoi tu fais des films sur la musique et enfin, à nouveau, une comédie? Puis aussi, depuis quelque temps, tu fais des installations sans vraiment te prendre pour une artiste. À cause du mot « artiste ». Lors du synopsis du film Chantal Ackerman par Chantal Ackerman, j'écrivais que si c'était quelqu'un d'autre qui réalisait ce film, il pourrait faire comme si, plus facilement. Comme si les paroles du cinéaste étaient vérité sur son travail. Comme si elles ouvraient vraiment une brèche sur l'origine de son désir de faire, et puis de continuer à faire, comme si lui, le metteur en scène, son visage, son sourire, ses silences et son corps en diraient plus long sur son travail, et que c'était toujours une tentation que d'aller chercher la parole de l'auteur, que d'essayer à travers lui d'en savoir plus, et qu'enfin il se dévoile. Si voile il y a. J'écrivais que faire quelque chose sur soi, sur son propre travail, pose de multiples questions, des questions troublantes. La question du jeu et du documentaire, de la fiction, du temps et de la vérité, et donc trop de questions. Et bien sûr que je n'arriverai jamais à y répondre dans ce film-là, ni dans ce monologue. Et pourquoi pas? Parce que moi-même, je ne comprends pas tout. Et que sans doute, si je comprenais tout, je ne ferais plus rien. J'ajoutais toujours dans le synopsis de « Chat par chat », comme j'appelle ce film, c'est le questionnement de toute une vie et même de plusieurs autres. Alors, quel pacte puis-je passer avec moi-même? Comment puis-je faire comme si? Ce pacte pourrait être celui d'un bilan. Cela fait maintenant 36 ans aujourd'hui que je travaille et j'ai parfois l'impression d'une gesticulation désespérée. Encore un film et encore un film et un autre et toute cette énergie dépensée, une façon d'être dans le réel. Tout serait si simple si c'était possible, s'il y avait un progrès, une tension, vers ce qui serait un mieux défini, faire à chaque fois un meilleur film, et qu'est-ce qu'un meilleur film? Tout serait si simple si un bilan était possible. Je pourrais me présenter comme mon double, un double plus fort, plus intelligent, qui aurait compris ce que son autre double cherchait à faire depuis tant de temps. Mais rien que d'y penser, je suis prise d'effroi comme le héros du récit de Dostoïevski qui entra, tout hagard, dans son logement, sans quitter ni manteau ni chapeau. Il traversa le couloir et, comme frappé par la foudre, s'arrêta sur le seuil de sa chambre. Je pourrais aussi, comme je l'ai déjà fait dans certains films où je joue à l'actrice, me présenter d'une manière burlesque pour éviter de me prendre au sérieux. Je pourrais dire la même chose pour ce livre, pour ce monologue, mot à mot. « Arrête de ressasser », disait mon père. « Et ne recommence pas avec ces vieilles histoires. » Et ma mère, tout simplement, se taisait. « Il n'y a rien à ressasser », disait mon père. « Il n'y a rien à dire », disait ma mère. « Et c'est sur ce rien que je travaille. » Ma mère, j'en ai tant parlé en parlant de mes films. Ai-je vraiment travaillé tant d'années pour elle, autour d'elle, en rapport à elle? J'ai même été la filmer un dimanche après-midi avec Renaud Gonzalez. Renaud, c'est un assistant qui est devenu un ami. Elle s'est laissée filmer le plus naturellement du monde, comme si elle avait passé sa vie devant une caméra. Pourtant, elle se méfie du cinéma. Surtout du cinéma qui traite des Juifs. Chaque fois qu'il y a un film sur les Juifs, on lui dit « vas-y ». Et après, elle fait des cauchemars pendant des mois. Elle n'aime pas faire ça, des cauchemars. Elle rêve beaucoup et elle raconte ses rêves. Mais seulement si ce ne sont pas des cauchemars. Les cauchemars, elle les garde pour elle, bien enfouis en elle. Mais moi, je les devine. Je crois les deviner. En fait, je ne sais rien, ou très peu, ni de ses cauchemars, ni de son passé. Alors, je les imagine, et les cauchemars, et le passé, je les réinvente. Enfin, c'est pas de ça que je dois parler. Parle de ce qu'on m'a demandé de parler. Mais j'ai pas envie aujourd'hui. Et puis, est-ce que je commencerai par la fin ou le début? L'envers ou l'endroit? À l'envers, c'est peut-être mieux. La tête à l'envers, j'ai. Et le cœur serré. Oui, en partie, parce que j'ai fait un film qui va sortir et je sens que ça va mal aller. Pourquoi? Parce que... Ou bien, comme dirait mon père, c'est comme ça.
Celle-ci, les belles jambes qu'elle a, les belles jambes qu'elle a.
Il ne me plaît pas.
Tu l'as vu, celle-là.
Les beaux yeux qu'elle a,
des yeux de feu.
Il ne me plaît pas.
Quand j'entends la pluie,
j'ai le cœur qui bat.
Tout éclate en moi.
Le climatiseur est cassé. J'ai... Je voudrais voir le ciel et ses nuages. Entendre les voitures klaxonner. Quand j'entends la pluie,
j'ai le cœur qui bat.
Tout éclate en moi.
Il pleut, il pleut, il pleut. Il pleut, il pleut, il pleut. Il pleut, il pleut, il pleut.
Un jour, j'étais dans mon lit, encore un peu abattu par l'échec d'un divan à New York, et j'écoutais la radio comme d'habitude. Et soudain, je l'entends, lui, Paolo, dire qu'il allait produire Le Temps Retrouvé. Je me dis, je devrais l'appeler. Cela faisait au moins 20 ans que j'avais envie d'adapter Albertine Prisonnière. Je ne l'ai pas appelé ce jour-là, ni le suivant d'ailleurs. Quelques mois plus tard, j'étais de passage à Paris pour 3 jours seulement. J'avais un rendez-vous chez des amis et j'étais en avance. Je me dis, il faut surtout pas arriver en avance sur toi dîner. Je serai dans les pieds. Alors, j'étais m'asseoir dans un café en attendant que l'heure tourne. Et là, dans ce café, je le vois, lui, Paolo. On se rapproche, se dit bonjour et je lui dis mon envie. Il ne me demande ni pourquoi, ni le comment, ni avec qui, ni quoi que ce soit. Il me dit, on le fait. 8 jours après, il m'envoyait un contrat. Entre-temps, j'étais tourné sud dans le sud des États-Unis et je suis revenu à Paris. Je pensais que ce ne serait que le début, qu'il y aurait à tourner et à retourner encore. Mais très vite, Claire et moi, on a monté et le film était là. Claire, c'est Claire Atherton. Alors très vite, avec Eric de Kuyper, on a librement adapté, on a librement laissé nos souvenirs d'Albertine remonter en nous et c'est devenu La Captive. Quand j'ai remis le scénario à Paolo, j'ai dit, Paolo, lis-le vraiment et dis-moi vraiment si ça vaut la peine. Je n'ai vraiment pas envie de faire un film de plus. Il l'a lu et m'a dit, on y va. Et on y est allé. 8 jours avant que le tournage du film ne commence, à 11h du soir, le téléphone a sonné. C'était lui. C'était simplement pour me dire que je pourrais faire le film comme je le voulais, que j'en aurais les moyens, et ce fut vrai. Après, il m'a laissé travailler en toute liberté. Je relis le texte. Le temps a passé depuis que j'ai écrit quelques lignes plus haut le « c'est comme ça » de mon père. Et en effet, cela ne se passe pas très bien. Le film n'est pas encore sorti, mais l'attaché de presse me dit que les réactions sont très mitigées. C'est une question de génération, paraît-il, mais pas seulement, je crois. Et je crois comprendre maintenant pourquoi cela se passe mal ou pas très bien. C'est encore à cause de ce foutu ressassement présenté comme si cela n'en était pas un. C'est le présenté comme si cela n'en était pas un qui éloigne sans doute du film. Je crois que s'il n'y avait pas de ressassement et que c'était juste une comédie, cela passerait sans doute mieux. Et que si ce n'était pas du tout une comédie et qu'il n'y avait visiblement que le foutu ressassement, on saurait mieux sur quel pied danser. Mais dans Demain on déménage, on ne fait pas que danser. C'est aussi sur une histoire pleine de trous que ce film fonctionne, avec comme objet principal le poulet, la fumée, l'odeur de désinfection et le tout sous des dehors enjoués. Je dis toujours, c'est une comédie optimiste, comme seuls les pessimistes peuvent en faire. Sylvie Testu, le personnage principal du film, dit de moi que je suis un clown triste. Je n'y avais jamais pensé, mais ce n'est peut-être pas faux. C'est ça l'envers, ou la fin. Avec Demain on déménage, j'ai essayé pourtant de rejoindre le début, le burlesque du début. Mais évidemment, je n'y suis pas tout à fait arrivé. C'est normal, on ne refait pas ses débuts. Pourtant, il y a quand même du burlesque dans ce film. Mais il est peut-être moins visiblement, joyeusement désespéré maintenant qu'alors. Dans Demain on déménage, Charlotte ne crie pas du tout. Elle laisse les événements arriver, sans se défendre. Sylvie, sans doute sans s'en rendre compte, me ressemble furtivement. Elle ressemble à ce que je suis devenue, quelqu'un qui ne peut pas crier comme je criais en chantant dans Saute ma ville. Non, elle ne crie pas Sylvie, Charlotte. Parfois simplement, elle se détourne.
Thank you.
toujours en moi-même quand je pense à elle, ma petite Sylvie. Je dis aussi mon petit Marcel. Je me sens si proche de Marcel. D'un Marcel imaginaire, évidemment, mais qui n'existe qu'en moi. Longtemps, je me suis couché de bonne heure, dit-il. Et moi, je me couche encore de bonne heure. Je suis toujours fatigué le soir, sauf exception. Je suis fatigué. J'ai l'impression que, continuellement, je lutte contre la fatigue. Et puis, de temps en temps, je l'oublie. Lui, il voulait que sa mère lui lise des histoires. Moi, je voulais connaître l'histoire de ma mère. Marcel, je l'appelle. Je le vois si beau sur son lit de mort. Mon petit Marcel, comme s'il était l'enfant que je n'ai pas eu. On me dit, mes proches, ce qui compte dans ce métier, c'est de tenir. Tenir à quoi ? À ce métier, et donc à soi aussi. C'est difficile de faire la différence entre soi et le métier. Le métier est dans soi et soi dans le métier. Et puis, est-ce vraiment un métier ? Oui, non, peut-être, ça dépend. De quoi ? Mais de tout, vraiment, vraiment. Et qu'est-ce que c'est que ce tout ? Je ne sais pas. Je dirais donc, ça dépend des jours. À côté du livre, sur ma table de travail, il y a une très belle photo de Sammy Frey en noir et blanc, prise lors du tournage du film Le Déménagement. Il cache sa bouche avec sa main gauche. Ce n'est pas moi non plus, mais déjà un peu plus. Il est assis sur une chaise et il attend. Dieu sait quoi. Moi aussi je suis assis sur une chaise et j'attends Dieu sait quoi. Dieu, il a compté pour moi jusqu'à l'âge de 10 ans. Puis, tout fièrement un jour, j'ai dit à ma cousine que je ne croyais plus. Elle m'a regardé, elle n'a rien dit. Elle faisait, il me semble, des allers-retours entre croire et pas. J'ai dit que je ne croyais plus. Mais j'aimais tout ce qu'il y avait autour de Dieu et dont j'avais été privé à la mort de mon grand-père. Du jour au lendemain, et en même temps progressivement, tout ce qui avait à voir avec Dieu et le rituel avait disparu de la table. Et pas grand-chose pour le remplacer. Juste le vide à la place des bougies. Et plus de quart le matin pour aller à l'école. Donc plus de cris et de rires et de batailles dans le quart. Mon père m'avait changé d'école. L'école juive, ça suffisait. Donc, juste les pieds pour aller à l'école laïque, enfin un public, souvent toute seule, parfois avec Sammy, un autre Sammy que celui sur la photo, Sammy Singerbaum. Je le connaissais parce que sa mère venait de la même ville en Pologne que mon père. D'ailleurs, dans son film « Bruxelles Transit », on voit nos deux grands-pères se rencontrer par hasard à l'arrêt du tram à Bruxelles. Sammy n'était pas encore né, mais sa mère le lui avait raconté des dizaines et des dizaines de fois, et à moi aussi. Maintenant, Sammy n'est plus là. Pourtant, il avait beaucoup d'humour. Et on dit que l'humour, ça sauve. Lui, non. Lui, cela n'a pas sauvé. C'est avec lui que je suis partie à New York. On partait là plein d'humour et d'espoir. L'espoir fait vivre, on dit. Et tant qu'il était à New York, Sammy vivait. C'est à Bruxelles qu'il est mort. À l'école laïque où nous allions ensemble parfois, Sammy et moi, il y avait quand même un professeur de religion israélite, comme on disait à l'époque. Mais on était si peu dans sa classe, et puis si désagréable, qu'on l'a rendue malade. Elle n'est plus venue. Tant pis, j'en oubliais mon hébreu. Maintenant, je l'ai presque complètement oublié, sauf à des moments où il me revient tout entier. Mon arrière-grand-mère, qui savait tout, faisait semblant de ne pas savoir que je n'allais plus à l'école juive. D'ailleurs, elle priait. Elle priait pour nous tous. Elle est morte quand j'avais à peu près 14 ans. Elle ne parlait pas le français. Elle portait une perruque. Elle sentait bon.
Thank you.
Avec mon grand-père avait disparu le rituel. Avec le rituel, on savait ce qu'on devait faire. En tout cas, mon grand-père, il savait. Et je le regardais faire. Ou même, je l'accompagnais dans une toute petite synagogue où il n'y avait que des vieux hommes qui chantaient. Et normalement, il n'aurait pas dû m'accepter en tant que fille dans le rang à peine serré. Mais j'étais si petite qu'il ne disait rien. Je connaissais tous les chants, les prières par cœur, et j'aimais ça. Et le vendredi soir, à la maison, j'aimais ça aussi. Ma mère faisait bouger ses mains devant les bougies, la tête penchée et couverte. Elle faisait bouger ses lèvres aussi, murmurait quelque chose, tout ça, j'aimais. Et puis, non seulement il a disparu du jour au lendemain, mon grand-père, mais tout le reste aussi. Quand ma cousine, celle à qui, il y a 10 ans, j'ai dit fièrement que je ne croyais plus, a vu Jeanne Dielman, elle a dit oui. Tout ce qu'on dit sur ce film, c'est sans doute vrai, mais personne ne voit que c'est un film sur la perte, sur la nostalgie du rituel perdu. J'y réfléchis, plusieurs années, et avec les années, c'est devenu totalement vrai pour moi. Si vrai que cette histoire de perte est devenue une souffrance. Enfin, elle l'était déjà sans doute, mais je ne le savais pas. Pourtant, je me suis toujours sentie proche de Roy Nathanson, le personnage avec des moustaches que j'appelle le free thinker ou le libre penseur dans l'histoire d'Amérique. Il dit là, devant un mur, qu'un jour, par hasard, il est passé devant une synagogue. C'était le jour du grand pardon, et il ne le savait même pas. Il n'est pas entré. Il s'est souvenu qu'il ne croyait plus, et qu'il pensait même que cette croyance maintenait le monde dans l'obscurantisme. Il n'est pas entré, mais il n'arrivait pas à s'éloigner des murs de la synagogue. Une force plus grande que lui le retenait là, immobile. À l'intérieur, ils se sont mis à prier, et de là où il était, cloué sur place, il entendait les mélodies. Son cœur s'est détendu. Le poids qui le pressait depuis si longtemps a fondu. Et maintenant, sans doute, il erre dans le monde, rasant les murs des synagogues. Oui, cela pourrait bien être moi, alors que je ne rase jamais les murs de synagogues, même si j'erre dans le monde. Non, je ne les rase pas. Pourquoi devrais-je raser les murs des synagogues? Ma mère m'a dit un jour, je ne sais plus quand, que la première fois qu'elle n'a pas rasé les murs, que la première fois qu'elle n'a plus eu peur dans la rue, que la première fois qu'elle s'est mise à marcher sans y penser et le plus tranquillement du monde au milieu du trottoir, c'était en Israël. Nous y sommes allés pour la première fois en 1961 en bateau tous les quatre, ma mère, mon père, ma sœur et moi. Je n'avais jamais remarqué qu'avant ça, elle rasait les murs. Mais puisqu'elle l'a dit, cela devait être vrai. Alors, pourquoi devrais-je raser les murs de la synagogue? En ce moment, plus que jamais peut-être, dans ce monde binaire, c'est toujours ou ça, ou ça. J'aimerais tant parfois que cela soit et ça, et ça, et ça. Enfin, tout ça pour dire que je suis quelqu'un de divisé ou de tiraillé en au moins 3, 5 ou 7. Et mon parcours est fait de toutes ces divisions, ces tensions, ça tiraille dans tous les sens. Et puis aussi, je sais marcher à côté de mes lacets. Ça, c'est mon côté clown triste, comme dirait Sylvie. D'ailleurs, je ne voulais pas faire du cinéma dans ma première adolescence. Je voulais écrire, à côté de mes lacets. Le livre avait, et a sans doute toujours, plus d'importance pour moi que le cinéma. Le cinéma reste quelque chose d'impur, entre guillemets, comme tout ce qui s'est passé après la mort de mon grand-père. Mais l'impur, c'est bien aussi. Le pur peut être terrible. D'une frappe à d'image. Exode 20. J'en ai fait. J'ai l'esprit de contradiction, peut-être, mais pas vraiment. C'est aussi ça, sans doute, qui donne toutes ces divisions, et que souvent, je regarde tout droit, en face. En face, ça amène moins d'idolâtrie dans ce monde idolâtre. En face, dans un face-à-face. Lévinas parle de ça, de l'extériorité du visage de l'autre, je crois. Et du premier commandement, tu ne tueras point, que tu entends dès que tu rencontres l'extériorité du visage de l'autre. Pourtant, tu ne l'entends pas toujours, non. Parfois, la surdité s'installe, ou bien il y a trop de bruit parasite entre toi et l'autre. Ou bien, toi, tu n'es plus toi-même, et donc, l'autre sans toi, il n'y a pas d'autre. Alors, l'autobiographie dans tout ça ne peut être que réinventée. Elle est toujours réinventée. Mais là, avec cette histoire pleine de trous, c'est comme s'il n'y avait même plus d'histoire. Que fait-on alors? On essaye de remplir ces trous. Et je dirais même ce trou, par un imaginaire nourri de tout ce qu'on peut trouver, à gauche, à droite et au milieu du trou. On essaye de se créer une vérité imaginaire à soi. C'est pour ça qu'on ressasse. On ressasse et on ressasse. Et parfois, on tombe dans le trou. Dis-moi la vérité. Raconte-moi ton histoire. Je ne peux pas. D'ailleurs, dans n'importe quelle circonstance, même sans trou, la vérité ne se livre pas si simplement. Souvent, même, elle se refuse. Je mettrai la caméra là, en face, aussi longtemps qu'il sera nécessaire. Et la vérité adviendra. La vérité, qu'est-ce que c'est que ça? Toute la vérité et rien que la vérité. Toute la vérité, c'est ce qui ne peut pas se dire. C'est ce qui ne peut pas se dire qu'à condition de ne pas la pousser jusqu'au bout, de ne faire que la midire, dit Lacan. Bien dit. Certains parleront de réalité, de réel, d'autres d'image juste. Moi, je dis vérité, j'ai sans doute tort. Et là où j'ai vraiment tort, c'est de dire la vérité. Faudrait plutôt dire un peu de vérité. On a beau mettre une caméra en face de quelqu'un, quelqu'une et quelque chose, cela ne se donne pas si simplement un peu de vérité. Et tout d'un coup, sans qu'on s'y attende, on sent quelque chose qui peut être à la fois du plaisir, de la peur, un battement de cœur. Alors soit on ferme les yeux, soit on part, soit on accepte ce trouble. C'est troublant, oui. Je dirais ça. Un trouble s'installe et parfois même une opacité. On n'est pas vraiment habitué. Voilà une rue. Une rue, c'est une rue, c'est une rue, c'est une rue. Eh bien non. Non, pourquoi non? Parce que... Donc voilà une rue de New York, par exemple, et même de Manhattan, et même du bout de l'île, du West Side, filmée de face à la tombée de la nuit, l'été. Que dit-elle, cette rue? Elle dit bien quelque chose de sa vérité, de la vérité de son image. Mais quoi? Et au bout de combien de temps? On voit une rue, et alors? On a l'habitude de voir une rue. Alors pourquoi montrer une rue? Justement, parce qu'on a tant l'habitude de voir une rue qu'on ne la voit plus. Non, il n'y a pas que ça. Mais quoi d'autre alors? Cette rue s'est ajoutée à un moment passé devant une autre rue, ou à un autre moment, face à un trajet dans un métro, ou encore face à un homme assis sur une chaise dans la rue. Et tout ce temps passé s'additionne et crée quelque chose. Et dans ce quelque chose, parfois un peu de vérité. Je sais aussi qu'au bout d'un certain temps, on glisse doucement vers quelque chose d'abstrait, mais pas toujours. On ne voit plus un couloir, mais du rouge, du jaune, de la matière, comme par exemple dans Hôtel Monterey, la matière même de la pellicule, dans une sorte de va-et-vient entre l'abstrait et le concret. Mais le concret, j'ai l'impression qu'il n'est pas le contraire de l'abstrait. La matière de la pellicule, c'est concret aussi. Et d'ailleurs, au bout d'un moment, on se souvient que ce jaune luisant, c'est un couloir, et que ce rouge foncé, c'est une porte qui doit forcément donner sur une chambre, et que cette chambre est peut-être occupée par une vieille dame, celle-là même qu'on a vue en bas, dans l'hall de l'hôtel, avec son chapeau et ses jambes toutes maigrelettes. Oui, on peut penser à tant de choses quand on voit longtemps un couloir vide dans un hôtel. Surtout quand bien avant, on a vu qui allait s'asseoir un moment ou l'autre sur la banquette dans ce même hôtel. Et puis un arbre. S'il est filmé dans le sud des États-Unis, s'il est là un certain temps, on peut peut-être se rappeler que dans ce sud-là, il n'y a pas si longtemps, on pendait des hommes et des femmes. On peut se souvenir de la chanson « Strange Fruits » que chantait il n'y a pas si longtemps encore une chanteuse qui s'appelait et s'appelle encore Billie Holiday. Fruit étrange en effet. On peut aussi, toujours dans ce même sud, regarder un champ de coton vide et bourdonnant. C'est difficile, encore une fois, si on le regarde un certain temps, de ne pas se souvenir qu'il n'y a pas si longtemps, il y avait là des esclaves noirs qui travaillaient sous la houlette de propriétaires blancs. Parfois, c'est à ça que ça sert le temps. Pas toujours, mais presque. Quand Delphine Seyrig est assise dans un fauteuil pendant des minutes entières dans Jeanne d'Illman, ce n'est pas qu'à un passé proche ou lointain qu'on se met à penser, mais on se rend compte tout d'un coup que si elle avait si bien organisé sa vie pour ne laisser aucun trou dans sa journée, c'était bien pour ne pas laisser place à l'angoisse du trou. À la sienne seulement? Non, non, pas seulement. Et puis, elle, toujours et toujours assise dans un tablier à petits carrés bleus et blancs, dans un fauteuil en velours doré, peut évoquer aussi une autre femme, une femme des années 50, 60 ou 70 ou 80 ou 90, ou même une femme de maintenant. Et si le plan n'était là que quelques secondes, que les secondes qui suffiraient à faire avancer la narration, aurait-il le temps, ce plan, d'évoquer toutes ces femmes et même ces hommes assis à un moment ou l'autre de leur vie? Non, je suis certaine que non. Le temps, ce n'est pas que dans le plan. Il existe aussi chez le spectateur en face qui le regarde. Il le sent, ce temps, en lui, oui. Même s'il prétend qu'il s'ennuie, et même s'il s'ennuie vraiment et qu'il attend le plan suivant. Attendre le plan suivant, c'est aussi et déjà se sentir vivre, se sentir exister. Ça fait du mal ou du bien, ça dépend. On pleure quand on voit quelqu'un mourir dans un film, et ça fait du bien. On dit « j'ai pleuré » avec une sorte de satisfaction, de jubilation même. Comme quand on dit « j'ai ri », on sent moins le temps passer, ou le temps vous entraîne, irrémédiablement, surtout si on n'a plus de rituel. Là, je me perds, je le sens. Le temps et l'espace, l'espace-temps, l'espace pendant un certain temps, l'espace d'une cuisine. Dans cette cuisine de la fin des années 60, une jeune fille saute dans sa ville. Après 7 ans, après même toujours dans le silence de sa cuisine, une femme de face. Elle boit son café, absente et pourtant concentrée. Puis encore, avec la fausse vraie grand-mère polonaise qui raconte et qui dit « mange » à la fausse vraie petite fille, celle de Saute-ma-Ville, « mange, sinon je ne raconte plus ». Est-ce que manger va avec raconter? Ça prend du temps. Et ce n'est pas parce qu'on a déjà vu quelque chose qu'il ne faut pas prendre le temps de voir encore. Au contraire, sans doute, tout le monde a déjà vu une femme dans une cuisine. À force de la voir, on l'oublie. On oublie de la regarder. Quand on montre quelque chose que tout le monde a déjà vu, c'est peut-être à ce moment-là qu'on voit pour la première fois une femme de dos, qui épluche des pommes de terre. Delphine, ma mère, la vôtre, vous-même. Une femme, oui, mais un couloir, pendant 10 minutes, ou un arbre.
Il faut que mon cœur se calme, il faut que mon cœur se calme, il faut que mon cœur se calme, il faut que mon cœur se calme. Cette nuit, affolée, il m'a tenue éveillée auprès de mon mari qui s'était endormi, son corps contre le mien, ne se doutant de rien. Et quand le jour venu, il a quitter la chambre, frôlant de ses pieds nus le tapis rouge tendre. Dans un souffle léger, je lui ai murmuré: enferme-moi dans tes bras, ne me quitte pas, ne t'en va pas, attache-moi au lit, je n'aurai pas un cri, je t'en supplie, retiens-moi. Mais je l'ai dit trop bas. Puis la porte claqua, il n'était déjà plus là. Et seul, maintenant ici, je ne pense qu'à Eli. J'en ai le souffle court. J'ai envie de faire l'amour. J'en ai le souffle court. J'ai envie de faire l'amour.
Bonjour, madame Schwartz.
Bonjour, je suis folle.
Freud a dit « inquiétante étrangeté ». Et s'il y avait aussi de l'inquiétante familiarité? J'ai déjà vu ça quelque part, mais où? Ces ombres sont déjà en moi. Ces visages, dans d'Est, je les connaissais. Il me faisait penser à d'autres visages. Je l'ai déjà dit souvent, et je pense même l'avoir déjà écrit. Et ces files d'attente, ces gares. Tout cela résonnait en moi, faisait écho à cet imaginaire, à ce trou dans mon histoire. Et dans le sud, quand je voyais ces arbres, inquiétante familiarité, et encore plus familière dans le trou de mon imaginaire. Dans de l'autre côté, la frontière bordée de lampes halogènes de surveillance, je n'ose même pas dire à quoi cela me faisait penser. D'ailleurs, quand j'ai montré ces plans à ma mère, dans ma cuisine, où Claire Atherton et moi commencions à monter, et que je lui ai demandé « Maman, est-ce que ça te rappelle quelque chose ?» Elle m'a répondu tout simplement « Pourquoi tu me demandes ça ? Tu sais ?» J'ai tant aimé le cinéma, sans peur, dans l'innocence, j'aurais fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi, enfin presque, à New York et à Paris aussi. Et c'est grâce à ça que j'ai pu faire Hôtel Monterey et La Chambre. Et puis Je tue l'aile, avec des bouts de ficelle et grâce au vol. C'est ça que je veux dire quand je dis n'importe quoi. Mais pas seulement, j'ai aussi travaillé, j'ai fait de tout, des intérims comme Dactylo, ça c'était à Bruxelles. À New York, j'ai travaillé dans un restaurant sur la Seconde Avenue. Un peu plus tard, j'ai travaillé dans un magasin de seconde main, puis dans Esther Street, chez un religieux, qui vendait des robes aux portoricaines. Après Jeanne Dillman, le premier film qui a été produit normalement, j'ai perdu l'innocence et la peur a doucement gagné du terrain, sournoisement. Parfois elle me lâche, je me sens légère, je flotte, je fonce, j'y vais. Ce sont des grands moments d'euphorie et de concentration. Un jour, j'ai dit à Delphine, tu sais, je ne sais pas comment ça se fait, mais je ne ressens plus la même chose qu'avant quand je fais un film. Ce n'est plus aussi fort, je ne me sens plus transporté de la même manière. Parfois ça revient, parfois c'est pas là. Fais, elle m'a dit. Fais, fais. C'est encore là, un peu moins à la surface, mais c'est là, je le sens. Cette passion, tu l'as encore. Elle s'exprime simplement différemment. Tu n'es plus une adolescente, c'est tout. Je ne suis plus une adolescente. Comment est-ce possible? J'ai pourtant bien l'impression d'être encore une adolescente. Un peu vieille pour une adolescente, mais une adolescente quand même. Alors je me suis mise à regarder les adolescents dans la rue. Non, je n'étais plus une adolescente. Que faire alors? Rien, c'est comme ça. Est-ce donc ça l'âge adulte? Je suis une adulte. Je dois me conduire comme telle. Je me suis mise à regarder les adultes dans la rue. Je n'étais pas comme ça non plus. Je n'avais pas réussi le passage à l'âge adulte, comme on dit. Il paraît que ça se voit très fort dans une famille à Bruxelles, quand on ne sait plus qui parle de la mère ou de la fille. Donc, la séparation ne s'est pas faite, paraît-il. En 1984, tout a changé. J'ai chanté tellement fort que j'ai explosé. Depuis, j'explose de temps en temps. Après l'explosion, je rentre à nouveau en moi et je reste là. Pendant des mois, comme hébété. Mais pendant l'explosion, je fais le tour du monde à toute vitesse, dans ma chambre ou ailleurs. C'est pendant l'explosion que j'ai écrit Houle de nuit. J'ai mis 4 heures, il n'y avait rien à corriger. Pendant l'explosion, je peux parler beaucoup de langues, et l'hébreu, bien sûr, me revient tout entier. Pendant l'explosion, je peux tout, jusqu'à ce que je ne puisse plus rien. Maintenant, je crains l'explosion. Pourtant, il n'y a rien à faire. Elle vient encore me surprendre de temps en temps. Je profite alors de son début et je fais, jusqu'à ce que je m'écrase. C'est aussi pendant une de ces explosions que j'ai écrit Phèbe, Elisabeth Velasquez. Cela m'a pris 3 ou 4 secondes. Il n'y avait rien à corriger.
Phèbe Elisabeth Velasquez, tuée pour ses activités syndicales dans un attentat à la bombe.
Phèbe Elisabeth Velasquez a été tuée le 31 octobre 1989 dans une explosion. Elle y était préparée. Elle savait que ça pouvait lui arriver. Plus de baisers échangés, plus de rencontres improvisées. Plus d'aube, ni d'aurore. Ils t'ont supprimé. Ils t'ont assassiné. Ta bouche s'est tue. Tes yeux se sont fermés. Phoebe et Elisabeth Velasquez, ils t'ont laissé là, étendu dans les décombres. Et avec toi, neuf autres. Et avec toi, neuf autres. Ton sourire, Phoebe Elisabeth Velasquez. Oh, ce sourire qui ne tremble pas. Ils l'ont meurtri, l'ont supprimé, mais pas effacé. Mais ils n'ont pu l'effacer. Elle, Phoebe Elisabeth Velasquez, elle a osé penser, elle a osé être, elle a osé sourire. Elle a été, elle n'est plus. Elle a été, elle n'est plus. Ils t'ont laissé là, étendu dans les décombres, avec neuf autres, neuf autres. Ton sourire n'est plus faible que dans le cœur de ceux qui t'ont aimé, t'aiment et t'aimeront. Elle, Phoebe Elisabeth Velasquez, elle a osé penser, elle a osé être, elle a osé sourire. Son sourire n'est plus faible que dans les cœurs de ceux qui l'ont aimé, l'aiment et l'aimeront.
Catherine Deneuve dit ça et marche sur la musique, écrite par Pablo Casals et jouée ce soir-là par Sonia Vidérathirton. Enfin, diffusée ce soir-là, dans cette rue-là. Et j'espère que quelqu'un a ouvert sa fenêtre ce soir-là, dans cette rue du 20e arrondissement. Je ne sais plus, je ne regardais que Catherine Deneuve. Le carnet. C'est ma mère qui l'a signé, du nom de sa mère, Sidonie Ehrenberg. Elle-même s'en étonne. Pourquoi j'ai signé, elle ne le sait pas. Moi non plus. Sans doute pour donner un point final. Une sorte de sépulture sans Shiva, ou pour l'authentifier. Pourquoi j'ai signé, elle se demande. C'est une demande sans réponse, comprendra qui voudra. Ma grand-mère n'a pas signé son Tagesbuch qui lui venait de Vienne. Je ne sais pas pourquoi exactement, mais ça me fait mal. Ma mère a signé après, après la tourmente. Quand elle-même est revenue de la tourmente où sa mère, son père, son oncle, son grand-père avaient péri, comme presque tout le monde. Un livre, une peinture, un film sont de quelqu'un, quelqu'une, c'est signé, pas un Tagesbuch. Maintenant, ce carnet est à moi. Je le regarde, je le touche, pas trop. L'écriture commence à s'effacer, surtout celle au crayon. Le jour où j'ai été filmer ma mère avec Renaud, on a mangé du bouillon tous les trois. Et puis, j'ai sorti le carnet de mon sac et j'ai demandé à ma mère de lire la première page et de la traduire. Elle a dit oui. Mais avant de commencer, elle m'a dit, en se penchant sur le carnet, « Regarde comme c'est joli cette tête, elle est magnifique, non ?» Oui, j'ai dit. Puis j'ai insisté pour qu'elle traduise l'autre page. Pas celle où ma grand-mère avait peint une femme à chapeau, mais celle où elle avait écrit. Et elle l'a fait, s'y reprenant souvent à deux, trois fois avec difficulté. Elle a un peu oublié le polonais, mais finalement, elle y est arrivée. « Je suis une femme. » Je ne peux donc pas dire tous mes désirs et toutes mes pensées à voix haute. Je peux juste souffrir en cachette. Alors à toi, ce journal, le mien, je voudrais au moins pouvoir dire un peu de mes pensées, de mes désirs, de mes souffrances et de mes joies. Et je serai sûre que jamais tu ne me trahiras parce que tu seras mon seul confident. Aurore a vu le film fait ce dimanche-là. Aurore, c'est Aurore Clément. Aurore, dans Demain on déménage, a redit les paroles de ma mère et de ma grand-mère. Pas tout à fait, bien sûr. Je les ai modifiées, mais il fallait bien en passer par la fiction. Ma mère a regardé Aurore jouer cette scène et soudain j'ai vu des larmes dans ses yeux. Elle essayait de les retenir, mais n'y arrivait pas. C'était de petites larmes, très discrètes. Le lendemain, je lui ai téléphoné. Elle m'a dit, tu sais, j'étais un peu émotionnée hier, mais je me sens enfin bien. Tous ces films m'ont amené enfin là. Ma mère se sent enfin bien. Enfin, elle a versé une larme. 33 ans de travail, avec tant de tours et des tours. Elle se sent enfin bien. Est-ce que je cherchais? Je n'en sais vraiment rien. Peut-être, j'aimerais le croire, mais honnêtement, pas seulement. Les lettres qu'elle m'écrivait pendant que je vivais à New York et qui sont apparues dans News From Home, souvent recouvertes par les bruits de la ville. Ma chère petite Chantal, ici c'est comme d'habitude. Les affaires vont mal. Sylviane a été malade et moi aussi. Je t'envoie $20 et j'espère... Ta maman qui t'aime. Non, ça n'a pas servi à ça. Ni histoire d'Amérique avec l'histoire de l'arbre et déjà du carnet, un peu. Bizarrement, c'est mon père cette fois qui a été le plus frappé par le film, tout en me disant « Qui est-ce que ça peut intéresser, nous ?» Et puis, et je lui dis « Qu'importe, c'est pour toi que j'ai fait ce film, papa. Pour moi ?» Et il a eu un petit sourire. C'était au Festival de Bruxelles. Ni Sud, où pourtant elle m'a dit, ma mère, je me suis identifiée à la sœur de James Byrd Jr. quand elle cite tous les noms de sa famille dans l'église, avec tant de dignité. En général, c'est le nom des morts qu'on scande. Là, c'était les noms des vivants et c'était encore pire. À mon frère bien-aimé, les choses ont changé depuis ton départ. Nos cœurs sont remplis de douleur, de tristesse. Pour maman et papa, tu étais le plus créatif. Pour tes frères et sœurs, Stella, Clara, Marie, Melinda, Betty, Derman et Levon. Pour tes enfants, James, René, Rose. Sa mort est une grande perte. Oui, c'était le nom des vivants. Et c'est aux vivants qu'elle s'est identifiée. Quand ma mère a dit ça, je lui ai répondu « Oui, Claire et moi aussi ». On s'est identifié et on a pleuré. On a pleuré chaque fois que la scène repassait devant nos yeux. Au bout d'un moment, on s'est mise à rire nerveusement. Ma mère n'avait pas pleuré, pas encore. Il aura fallu Aurore. Aurore qui la rejoue. Oui, il aura fallu tout ce temps et passer par la fiction, enfin presque. Comique. Oui, j'ai envie de ça. Et du burlesque. Au cinéma, on peut tout se permettre. On peut casser des assiettes, cirer des jambes, hurler pipi dans les escaliers. J'ai commencé par ça. Burlesque et tragique aussi. Ça finissait mal, commençait bien. Souvent, ça commence mal et finit bien au cinéma. Et puis faire des spaghettis, ça, c'est ni bien ni mal. Mais les manger salement, ça, c'est pas très bien. Sans se laver les mains d'abord. Se frotter la bouche avec ses mains, sans serviette, ça, c'est pas grave, mais pas très bien. Mais jeter tout par terre, faire tout tomber des armoires, les casseroles et les boîtes de maïzena, et la passoire, et enfin tout, ou presque. Et puis jeter de l'eau sur tout, c'est pas grand-chose, c'est presque rien, mais c'est presque mal. Sans en avoir l'air, j'ai commencé par le début, Saute ma ville. Je me rends compte que ce film, depuis que j'ai commencé ce monologue, que ce film m'obsède, qu'il y avait là tout ce que j'aimerais encore pouvoir faire au cinéma et dans la vie. Dans la vie, ça m'arrive encore parfois, mais c'est par inadvertance. Bien sûr, maintenant, ce n'est plus possible. J'avais 18 ans et j'ai mis mon corps dans ce film. Et je n'avais aucune idée de ce que ce corps allait produire. L'aurais-je fait ? L'aurais-je fait comme ça si j'avais su ? Un corps maladroit et à la fois pas encore défini, mais trop défini. Une tête ronde. Dans ma première tentative d'autoportrait, je commençais par demander de la bienveillance. Il me semble qu'ici, j'en demande encore plus. Je parlais, après Barthes, de l'artifice de la sincérité. Si j'écrivais juste une suite de faits, à plat, platement, sortons de l'Oedipien, mais je suis en plein dedans. N'est rien résolu, grand-mère, grand-père, mère, père, sortons, sortons. Chantal Anna Ackermann, 1950, née à Bruxelles le 6 juin, 1953, rentre au jardin d'enfants, 1956, rentre à l'école primaire, 1962, rentre au lycée, 1966, sort du lycée au milieu de l'année, 1967, entre à l'INSAS, en sort 3 mois après, 1968, novembre 68, tourne, saute ma ville, puis va vivre à Paris, etc. La grande différence pour moi entre un documentaire et une fiction, avant que l'un ou l'autre ne soit fini, c'est que quand on part tourner un documentaire, on part sans scénario et sans acteur. Après, le documentaire tourné et monté, s'il n'ouvre pas une brèche dans l'imaginaire, s'il ne s'y glisse pas de la fiction, alors pour moi, ce n'est pas un documentaire. Quant à la fiction, s'il ne s'y glisse pas du documentaire, alors j'ai du mal à penser que c'est un film de fiction. Moi, j'aime dire des textes que j'ai écrits et même d'autres. Dans De l'autre côté, je finis par dire un texte dans le 25e écran aussi. Le 25e écran, c'est encore toute une histoire. C'est ma première installation, enfin, la fin de ma première installation. Pour arriver au 25e écran, il faut passer par le film projeté, puis traverser, se promener ou s'arrêter même parfois devant les 24 premiers écrans. Ils vont par trois et sont posés sur un piédestal. Le 25e, lui, est caché dans un petit coin par terre, à part, tout seul, dans le noir. Dans le noir, avant même qu'on ne pénètre dans la petite chambre où il gît, on entend déjà le colnidré jouer au violoncelle par Sonia. Et puis aussi ma voix, d'abord en hébreu, puis en français. On entend... « y relera Elohim acherim alpanai. Lo ta selecha pesel vekol tmuna asher bashamaim mima'al vasher ba'aretz mitachat vasher bamaim mitachat la'aretz. Lo tishtachave lachem velo ta'avdem ki anochi adoshem Eloheach Elkana poket avon avot albanim al shlishim ve'al revim lishniyai. ועושה חסד לאלפים, לאוהביי ולשומרי מצוותיי. Tu ne te feras point d'idole, ni une image quelconque, de ce qui est en haut dans le ciel, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les adoreras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Qui poursuit le crime des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération pour ceux qui m'offensent, et qui étend ma bienveillance à la millième pour ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Écrire un film avant même de le connaître, écrire pour fermer, écrire la lettre au père de Cajimèche sur la Vistule. J'ai été, puis j'ai écrit, sans trop comprendre. Un regard de passage, ébloui par l'été, traversé par l'Allemagne de l'Est, puis par la Pologne. En chemin, au pas de course, Tarnouf, d'où vient ma mère, pas vue, pas regardée. À la frontière, l'été s'est éteint pour laisser place à l'automne. Un automne sourd et blanc, recouvert par une masse de brouillard. Dans la campagne, des hommes et des femmes presque couchés sur la terre noire d'Ukraine, se confondant avec elle, ramasse des betteraves. Non loin d'eux, la route défoncée par le passage continuel de camions déglingués, dont les gaz viennent couvrir terre et visage de fumée noire. Et c'est l'hiver blanc, et le ciel immense, et quelques silhouettes qui marchent vers Moscou, où le film se resserrera. Laissera sans doute percevoir quelque chose de ce monde déboussolé, avec cette impression d'après-guerre, où chaque jour passé semble être une victoire. Cela peut sembler terrible et sans poids. Mais au milieu de tout cela, je montrerai des visages qui, dès qu'ils sont isolés de la masse, expriment quelque chose d'encore intouché et souvent le contraire de cette uniformité qui parfois vous frappe dans la foule, en marche ou arrêtée. Le contraire de notre uniformité à nous aussi. Sans faire trop de sentiments, je dirais qu'il y a encore des visages qui se donnent et effacent par moments le sentiment de perte, de monde au bord du gouffre, qui parfois vous étreint lorsque vous traversez l'Est comme je viens de le faire. Faut toujours écrire quand on veut faire un film, alors qu'on ne sait rien du film qu'on veut faire. Pourtant, on en sait tout déjà, mais même ça, on ne le sait pas. Heureusement, sans doute. C'est seulement confronté au fer qu'il se révélera, à tâtons. Dans le bredouillement, l'hésitation aveugle et claudiquante, parfois dans un éclair d'évidence. Et c'est petit à petit que l'on se rend compte que c'est toujours la même chose qui se révèle, un peu comme la scène primitive. Et la scène primitive pour moi, bien que je m'en défende et que j'enrage à la fin, je dois me rendre à l'évidence, c'est loin derrière ou toujours devant, de vieilles images à peine recouvertes par d'autres, plus lumineuses et même radieuses. De vieilles images d'évacuation, de marches dans la neige avec des paquets vers un lieu inconnu. De visages et de corps placés l'un à côté de l'autre. De visages qui vacillent entre la vie forte et la possibilité d'une mort qui viendrait les frapper sans qu'ils aient rien demandé. Et c'est toujours comme ça. Hier, aujourd'hui et demain, il y a eu, il y aura, il y a en ce moment même des gens que l'histoire, qui n'a même plus de hache, que l'histoire vient frapper et qui attendent là, parqués en tas, pour être tués, frappés ou affamés, ou qui marchent sans savoir où ils vont, en groupe ou isolés. Il n'y a rien à faire, c'est obsédant
et ça m'obsède, malgré le violoncelle, malgré le cinéma. Le film fini, je me suis dit, c'était donc ça, encore une fois ça. J'avais l'impression que je pouvais tout faire et vivre comme je le voulais. Je me sentais devenir forte et indépendante. Je vivais de petits boulots, je mangeais des énormes petits déjeuners, 3 œufs, autant de café que je voulais. Je courais à gauche, à droite, je volais. J'en étais venue à penser que la narration, c'était obscène. Maintenant, je ne le crois plus, mais là, oui. Quand je suis rentrée, je m'y suis pourtant lancée dans la narration. Je tue Hillel, Jeanne Dillman, les rendez-vous d'Anna. Entre les rendez-vous d'Anna et Jeanne, j'ai fait News from Home. Ce n'était pas une narration et cela se passait à New York. Il faisait très chaud, c'était l'été. Quand j'ai appelé Delphine pour Jeanne Dillman, j'avais presque honte. J'avais le vague sentiment de trahir en faisant de la fiction. C'est passé. Je me souviens de Jonas Mekas, de Michael Snow, d'Yvonne Reiner et d'Annette Michelson. Un restaurant italien un peu populaire avec Jonas, Babette Mangold, Annette et Michael. Jonas filmait avec une petite Bolex. Nous, on mangeait. Après, chacun rentrait chez soi en marchant. J'ai énormément marché à New York. De Harlem à Soho, de jour comme de nuit, tout droit. J'ai aussi beaucoup déménagé et beaucoup vécu chez des gens sur des canapés. À ce moment-là, il faisait froid. New York a énormément changé. Ça, tout le monde le sait, le dit, et c'est vrai. Quand je l'ai connue en 71, c'était une ville presque délabrée. C'était sa beauté. C'est ce délabrement que j'ai tant aimé. Et c'est digne. La ville était en faillite, dangereuse, tout le monde le disait. Moi, je n'avais pas peur, au contraire. J'étais exaltée. Le deuxième jour de mon arrivée, nous avons marché sur le pont de Brooklyn. C'était la tombée de la nuit. Le pont s'est retrouvé dans un divan à New York. Mon expérience la plus désastreuse. Je croyais bien que j'allais m'arrêter là, et puis ça m'a repris, et il y a eu sud, cette route dans le sud. Toujours à cause de la cuisine et du silence de Faulkner et de Baldwin qui crient dans Harlem Quartet que j'ai tant aimé, qu'ils sont partis à leur risque et péril. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Le silence est total. Le silence du sud. Un silence lourd, tendu. Un silence de plomb. Un silence qui devrait être paisible mais ne l'est pas. On guette le cri qui va briser ce silence. On redoute le jour qui vient. Je pense que la peur a commencé avec la perte de l'innocence quand les gens les mieux intentionnés qui soient m'ont dit, après avoir vu Jeanne Dillman et l'avoir aimée, tout cela c'est formidable, mais maintenant il faut commencer à penser au public. Il faut faire des entrées, comme on dit dans le métier. Des entrées, c'est le nombre de spectateurs qui va voir le film au cinéma. Oui, bien sûr, j'ai répondu, sans vraiment savoir ce que je disais. Et le ver est entré dans le fruit. Parfois il dort, parfois il se réveille. Quand il se réveille trop fort, je lui tape sur la tête et je lui dis « Tais-toi, mais tais-toi donc !» Il me dit alors d'une voix très douce « Comme tu veux, mais c'est dangereux, surtout maintenant. Ne sais-tu pas que les temps changent ?» Alors je réponds tout doucement « Mais les temps changent tout le temps, et j'ai déjà entendu cette chanson. Et Marilyn et moi, avec des hauts et des bas, on est toujours parvenus à s'infiltrer dans les fissures du système. Oui, mais à quel prix ? Au prix de notre désir, et le désir est sans prix. » Jeanne Dillman, je me rends compte aujourd'hui que de donner le nom de quelqu'un, d'un personnage, comme titre d'un film, fait que le personnage existe plus. Je pense à Jeanne Dillman comme s'il avait existé. Effet du réel, Anna aussi, Madame Bovary aussi, Anna Karenine aussi. Après, je n'ai plus fait ça. Pour faire du cinéma, faut se lever, je me lève. Pour faire du cinéma, faut s'habiller, je m'habille. Pour faire du cinéma, faut être debout, je suis debout. Aurore aussi à ma suite, oui. Sans ça, je resterai couché ou assise comme maintenant. Le cinéma me sort du quotidien. J'ai l'impression de l'avoir déjà dit, mais tant pis. Mais dans le quotidien, normalement, on se lève, se lave, s'habille, etc. Moi, je me lève, je me lave, je m'habille, pour un jour me lever, me laver, m'habiller pour faire du cinéma. Mais on ne se lève pas de la même manière pour faire du cinéma que quand on n'en fait pas. Non, tout d'un coup, cela devient différent. Hors de la répétition.
Même si j'aime ça, parfois la répétition et que j'en ai besoin, besoin de la filmer, cette répétition. Ou bien, besoin de crier pour y échapper. Surtout depuis que je ne crois plus en Dieu. Surtout depuis la mort de mon grand-père. Surtout après que la répétition ait perdu de sa sublimation dans la perte du réel. J'ai 56 ans. Il me reste donc moins à vivre que ça. C'est à la fois le moment de se débarrasser de ce qui encombre, ou bien de se dire que pour se lever, on peut trouver d'autres raisons que le cinéma. Suis-je sincère, honnête, dans l'intime même, peut-être? Sans doute, oui. Non. Comment atteindre tout ça? Gratter jusqu'à l'os et en rire? J'ai une nouvelle fois envie de partir loin. Et le documentaire permet cela. On part loin et ça rapproche, sans qu'on le sache. Parfois, on le sait un peu. Si je me mettais maintenant à remonter tous ces films, aurais-je le même senti sur la longueur des plans, d'est, sud, de l'autre côté? C'est devenu une trilogie. Je tue l'aile, Jeanne Dillman, les rendez-vous d'Anna. Et demain, on déménage. Est-ce que ça peut être une quadrilogie? Non. Demain, on déménage. Va mieux avec Saute ma ville, j'ai faim, j'ai froid. Famille, le business et l'homme à la valise. Tu ne feras pas d'image. Je tourne en rond. Et tu ne te prosterneras pas devant elle, sinon tu resteras 40 ans dans le désert. J'y suis dans le désert. J'attends la manne qui ne vient pas, les mots arrachés au silence. J'ai pourtant un sujet, j'ai plus qu'à rédiger. Et j'ai vraiment cru qu'il me fallait parler pour ma mère. Oui, a posteriori. M'en suis-je vraiment senti capable? Parfois. J'ai eu Sylvie au téléphone hier, elle venait de perdre son grand-père. Elle avait une toute petite voix. On a un peu parlé. Elle m'a dit, le film, Demain on déménage, va au panorama. J'ai dit oui. Et tu sais, je n'emploie pas souvent ce mot, même jamais. Mais je me sens humiliée. Elle a dit, faut pas, c'est bien le panorama. Du coup, je ne me sentais plus humiliée. J'ai tant aimé faire ce film. Nous n'avons fait que chanter. J'aime chanter. C'est ce que j'aime le plus. Avec Sylvie, Aurore, Lucas, Natacha, Dominique, nous n'avons fait que chanter. Même Jean-Pierre s'y est mis. On chantait, puis on tournait. Quelle joie. Quoi qu'il arrive, il ne faut pas que j'oublie ça. Ce bonheur-là, c'est pas si souvent. Loin de là. Quand Elsa est arrivée à la fin, elle s'est mise tout de suite à chanter avec nous. Plus on chantait, mieux le film allait. Le chant de fin de film n'était pas prévu. Il est venu sans doute à cause de ça.
Elles vécurent ainsi plusieurs années. L'une écrivant et s'occupant du bébé. L'appelant Simon. Parfois Simone, l'autre dansant et vivant enfant, des rêves de jeune fille sans amant. L'enfant devenait grand avec ses deux mamans et n'aimait rien que de taper très très grand sur l'ordinateur ouvert de sa vraie fausse maman. Des grands mots cochons que lui glissaient doucement ses grands-parents.
Tu trouves ça comique?
Comme que ses grands-parents resplendissant comme que Cubit. L'une notant tout ce que l'enfant disait, ses premiers pas maladroits, ses premiers mots, ses premières dents, ses gazouillements et ses mamans. L'autre l'oubliant parfois totalement. L'enfant devenait grand avec ses deux mamans et n'aimait rien que de taper très très grand sur l'ordinateur ouvert de sa vraie fausse maman. Des grands mots cochons que lui glissaient doucement ses grands-parents resplendissant comme que Cubit. Ses grands-parents resplendissant comme que Cubit.
Le carnet de ma grand-mère non plus n'était pas prévu. Ce n'était pas dans le scénario. Maintenant, il est devenu le cœur du film, le cœur qui bat. Il en a aussi sans doute changé le sens. Il a aussi changé beaucoup de choses dans mon existence et sans doute pas que dans la mienne. Le courage, il en faut pour faire des films, mais il en faut pour tout. Bruxelles. J'y suis née et j'y ai passé là de longues années. certaines meilleures que d'autres, mais c'est là que j'ai tourné pour la première fois. Sotmainville, c'est là. Jeanne Dillman, c'est là. Toute une nuit, portrait d'une jeune fille, et l'intérieur de l'appartement de demain on déménage, c'est là. Et nuit et jour, c'est là. Je suis restée 2 ans à Paris dans 2 chambres de bonne différentes, l'une rue Bonaparte, l'autre rue Croulebarbe. Paris, c'était un rêve d'adolescente. C'est là que j'ai écrit « Je tue il, elle ». C'était une nouvelle, pas un film. Ce n'est que bien des années plus tard que c'est devenu un film. À Paris, il faisait très froid l'hiver où je suis arrivée. Et ma chambre de bonne n'était pas chauffée. Je passais chaque fois devant le commissariat avec un panier où il y avait un bout de pain, un fromage de faux chèvre et un œuf. Et chaque fois, on faisait ouvrir mon panier. C'était juste après 68. Dans le couloir où il y avait les chambres de bonne, il y avait un vieux peintre avec sa femme. Eux aussi vivaient là, et depuis longtemps. Je ne sais pas comment ils supportaient. Le couloir était sombre. Au bout du couloir, des toilettes et un petit lavabo. Ça changeait de chez mes parents. J'avais faim, j'avais froid, et j'étais obsédée par les charcuteries. Jamais je n'avais vu à Bruxelles des charcuteries comme ça. Maintenant, je ne regarde plus les charcuteries. Et j'habite dans un quartier où, s'il y en a, elles ne ressemblent pas à celles devant lesquelles je m'arrêtais sans jamais y entrer dans les beaux quartiers. Bien sûr, tout ça, elle a un peu changé, un peu différent, dont j'ai faim, j'ai froid. La deuxième année, je vivais rue Croulebarbe. Je faisais très souvent des allers-retours en stop à Bruxelles. Faut pas aller chercher plus loin, de là est sorti « Je tue l'aile ». Je n'ai aucune imagination. Quand je vois des films pleins d'imagination, je me dis, mais où ont-ils été trouvés tout ça? Paresseuse, lève-toi. Paresseuse, habille-toi. Ça non plus, j'ai pas été chercher très loin. Autobiographique, oui. Non, tout l'est, rien ne l'est. Les sentiments, sans doute. Les faits, toujours un peu transformés, un peu inventés. Pas les sentiments. Pas vraiment. Pareil pour Portrait d'une jeune fille. Michel, le personnage principal du film, dit « Je veux devenir un écrivain, un grand. » Je ne suis pas devenu un grand écrivain. J'ai pourtant un chien, mais je fume, je fume, je fume. Je voudrais tant arrêter de fumer. J'y suis arrivé parfois, mais ça n'a pas duré. Dominique Paigny, qui me soutient depuis des années, m'a dit lui aussi « Chantal, tu devrais t'arrêter. » Il a raison, je le sais. Puis il m'a demandé si j'ai vu mon nom flotter rue Beaubourg. Non, pas encore. Je suis bloqué chez moi avec une bronchite. Il m'a répété très sérieusement, « Chantal, tu devrais t'arrêter de fumer. » Ma mère fume aussi, et comme moi, elle essaye tout le temps d'arrêter. Dimanche. J'aime écrire le dimanche. Je sens que j'arrive vers la fin de ce texte. Il va me falloir bientôt relire et censurer. C'est très rare que je censure, mais cette fois, il va me falloir le faire parce qu'à certains moments, ce texte est devenu un défouloir, un cri. Je voulais toucher à l'intime. À certains moments, je l'ai fait, tant et si bien qu'il va me falloir l'extraire du texte. Cet intime-là était tout juste bon à dériver plus encore vers la régression. Bien sûr, quelques-uns vont penser dommage, ils auront tort. Tout n'est pas bon à écrire ou à montrer. Il y a des fois où ça déborde. Il y a des choses que personne n'a envie d'entendre, ni de lire, ni de voir, je crois. Pour cet intime-là, il y a le divan à Paris.
dans mon village.
C'était Auto Radio Portrait par Chantal Ackermann. Prise de son Véronique Amiot. Mixage Pierre Mine. Une réalisation de Lionel Quentin. La musique est principalement interprétée par Sonia Wider à Turton. L'autoportrait en cinéaste de Chantal Ackermann est publié aux éditions du Centre Georges Pompidou.
Couverture tissée de rêves et de lucioles.
Voilà, fin de la fin de l'atelier. Une émission proposée par Philippe Langlois et Franck Smith. C'est tout, c'est fini. Mais rassurez-vous, l'horizon est une question.
Cette émission a été diffusée la première fois le 25 mars 2007 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.